Je vous propose pour l'exposé suivant de passer d'une approche spécifique, puisqu'on était sur l'espèce truite, à une approche écosystémique milieu, puisque nous allons parler de zones humides. Donc vous avez tous entendu parler de roselières, de gravières, de tourbières, de marais, de marécages, de prairies humides. Donc tous ces termes relèvent effectivement de ce qu'on appelle, en langage technique et scientifique, les zones humides, ces milieux mi-eau, mi-terre, qui présentent des sols inondés ou gorgés d'eau et une végétation et une faune spécifiques. Donc Julien Haït Elmeki, qui est chargé de mission patrimoine naturel au parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, va vous présenter les résultats de l'inventaire des zones humides qui a été fait sur le territoire du parc. Donc c'est un exposé pour mieux connaître, connaître pour mieux vous sensibiliser, connaître également pour mieux gérer et pour mieux intégrer cet enjeu des zones humides dans les projets de développement et d'aménagement.
Merci. Donc effectivement, en tant que chargé de mission au PNR, j'ai été chargé de réaliser l'inventaire des zones humides. Alors, donc d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on appelle zone humide, et puis ensuite, je dirai pourquoi elles ont été un sujet d'étude particulier pour le parc, puisque l'étude, l'inventaire a été réalisé en interne par l'équipe technique du parc. Et ensuite, je dresserai un portrait des différentes zones humides, des différents types de zones humides qui ont été inventoriées sur le territoire du parc. Donc d'abord, pour répondre à la première question, je vais vous présenter des images de plusieurs zones humides pour que vous puissiez observer ce qu'on appelle des zones humides. Donc on voit ici un site qui est dans la vallée de Siguère. On est ici sur le piémont à Casavé, où on ira demain pour les ateliers de terrain. On est ici dans la vallée de Bassiès. Et ici, on est encore dans une petite vallée du Vic de Sceaux. Donc vous aurez sûrement remarqué que sur ces photos, on voit à la fois de l'eau libre et une végétation qui est très intimement associée à cette eau libre qu'on voit. Et bien en fait, cette végétation qui jouxte l'eau libre, qui en quelque sorte qui forme une transition entre l'eau libre et la terre ferme, on voit en haut là les rochers, mais c'est ce qu'on appelle les zones humides. Donc peut-être l'expliquer plus par ces petits schémas. Donc vous voyez la terre ferme donc qui se trouve sur les niveaux topographiques supérieurs, les eaux libres donc qui peuvent être des cours d'eau ou des lacs, des mares, et puis ces zones intermédiaires où l'eau est présente de façon importante dans le sol et sur lesquelles se développe une végétation tout à fait spécifique, puisque c'est une végétation qui est adaptée à l'engorgement du sol qui est quasi permanent. Mais en fait, l'eau libre, elle n'est pas forcément tout le temps présente. Et je vous le montre ici avec des photos d'autres types de zones humides sur lesquelles, en fait, comme ça, l'eau, en fait, elle n'apparaît pas. On voit ici un bas-marais qui est à côté de l'étang de l'Hers, une prairie qui est à Rimont. Voilà, en fait, on est dans cette situation-là où le sol est bien gorgé d'eau de façon quasi permanente sur l'année, ce qui entraîne des conditions, des contraintes importantes pour la végétation et donc des espèces qui sont adaptées et qui vont pousser sur ce sol gorgé d'eau. Et alors par contre, sur une même zone humide, l'eau libre, elle peut être apparente une partie de l'année, comme on le voit sur ce boisement humide, avec une photo qui est prise au printemps. Et la même forêt qui est prise en photo plus tard dans la saison et où l'eau a apparemment disparu, mais qu'on retrouve en fait en sous-sol. Donc pour résumer, les zones humides, c'est bien ces zones qui sont à l'interface entre les eaux libres et la terre ferme, et leur présence est conditionnée à la présence d'eau dans le sol de façon quasi permanente. ces conditions, donc en fait la présence d'eau dans le sol fait que l'oxygénation est très faible, donc il y a très peu de micro-organismes qui ne peuvent pas dégrader la matière organique, il y a très peu d'oxygène et donc il y a une végétation qui est adaptée à ces conditions-là qui se développe. C'est une végétation qui est dite hygrophile et le sol de ces zones humides est dit hydromorphe puisqu'il est... Il est gorgé d'eau au moins une grande partie de l'année, donc ça lui donne des caractéristiques particulières. Donc je parlais de végétation, alors là, un tout petit échantillon de végétation typique de zone humide. On va avoir pas mal de ces espèces ici et ici, donc les joncs et puis les carex, donc les lèches, qui sont des espèces qu'on dit graminoïdes parce qu'elles ont des types de voilà, elles n'ont pas des fleurs très remarquables, contrairement à l'iris faux accord par exemple, ou ici la silène fleur de coucou. Et puis ici, une espèce qui est relativement connue, qui est les linaigrettes. Alors il y a plusieurs espèces, mais l'herbe à coton qu'on va trouver notamment sur les tourbières et les prairies tourbeuses. Voilà, et puis une photo d'un sol de zone humide. Alors on ne le voit pas bien, mais les sols de zone humide, ils sont caractérisés par notamment des petites taches de rouille, en fait, qui montrent que ces sols sont humides une partie de l'année. Alors pourquoi un sujet d'étude particulier pour le parc ? Bon, l'action du parc, je ne sais pas si vous le savez, mais elle s'appuie sur l'existence d'une charte qui définit les objectifs en matière de préservation et de développement du territoire. Les zones humides, elles se trouvent au cœur, enfin, ou en tout cas elles mettent en jeu des thématiques différentes qui intéressent particulièrement l'action du parc, que ce soit en termes d'agriculture, de ressources en eau, d'aménagement du territoire, de diversité biologique, bien sûr, et aussi de climat. Et puis, ce qui concerne les sciences, la culture, les sociétés, et puis les risques. Voilà. Et puis aussi, toutes les interactions qui existent entre tous ces domaines-là. Et donc, on peut dire que les zones humides sont voilà, la confluence de l'ensemble de ces domaines. En fait, si elles sont à l'ensemble de ces, si elles sont au cœur de ces thématiques-là, c'est qu'on leur reconnaît des grandes fonctions, en particulier trois grandes fonctions. Je vais expliquer quoi. Donc, on considère que les zones humides jouent un gros rôle hydrologique, puisque elles contribuent à stocker l'eau en période humide, parce que en fait, elles se trouvent au niveau de sous-sol imperméable, et donc la matière organique qui s'accumule au niveau de ces zones humides permet, comme des éponges, de stocker l'eau lorsque les précipitations arrivent sur la Terre. Et elle les restitue ensuite de façon progressive aux cours d'eau et aux plans d'eau qui se trouvent en aval. L'autre grande fonction, la fonction biochimique, puisque les zones humides contribuent à absorber des substances chimiques et minérales. C'est du fait que l'eau qui les traverse dépose en leur sein voilà, ces différents éléments. Et puis elles contribuent aussi, encore une fois, par l'accumulation de matières organiques, à stocker du carbone. Et enfin, elles ont un grand rôle écologique, puisqu'en fait, il est reconnu que 50% des oiseaux en France métropolitaine et 30% des espèces végétales menacées ou remarquables dépendent des milieux humides. Et donc, si on se place d'un point de vue plus anthropocentré, on va dire, ces grandes fonctions naturelles des zones humides, en fait, elles nous rendent, à nous, société humaine, de multiples services, qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus communément des services écosystémiques. Alors il y avait ce schéma qui a été réalisé par l'Union internationale de conservation de la nature, où on n'arrive pas à lire, mais en gros on voit ici que les zones humides contribuent à la sécurité alimentaire des sociétés, parce que la présence d'humidité dans le sol permet à certains endroits de produire du foin par exemple, de l'herbe, ou d'autres denrées directement mangées par les hommes. Elles contribuent à la préservation de l'eau douce, à la régulation du climat en stockant notamment le carbone. Voilà, elles ont un rôle spirituel, esthétique, un rôle de loisir aussi, et donc elles contribuent à tout ça, à tous ces aspects qui contribuent au bien-être, au développement des sociétés humaines. Voilà, là c'était juste pour montrer en fait le rôle que jouent des zones humides sur un bassin versant. C'est une étude du département de l'agriculture des États-Unis qui a montré que la présence de zones humides dans un bassin versant, de par leur rôle hydrologique, donc comme je vous l'ai dit, de stockage de l'eau et de régulation du niveau d'eau dans les cours d'eau, mais en fait atténue les perturbations. On voit ici un bassin versant modèle dans lequel il y a beaucoup de zones humides. On voit que le cours d'eau a un débit relativement stable, ou en tout cas, un bassin versant où il n'y a pas de zone humide, il n'y a pas ce rôle de régulation, et donc les pics sont beaucoup plus importants en cas de fortes précipitations. Donc ce sont des milieux importants, mais relativement fragiles, et qui ont été dégradés, et qui restent encore menacés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette présence d'eau dans le sol, elle entraîne des contraintes, malgré tout, importantes. Et en tout cas, c'était le cas lorsque les sociétés humaines étaient peut-être un peu plus fragiles et beaucoup plus dépendantes de leur environnement direct. On voit ici un vieux plan d'un marais dans le Poitou, donc une annexe du marais poitevin, et on voit les plans d'assainissement tels qu'ils étaient imaginés, donc ici au XVIIe siècle, mais ça a été le cas au XVIIIe, au XIXe siècle. Donc on assainissait les marais pour drainer les terres, faire en sorte que la matière organique en fait puisse se décomposer, se transformer en nutriments assimilables par des plantes utiles à l'homme. On voit ici une photo des landes de Gascogne telles qu'elles existaient au début du 19e siècle. C'est une photo de Félix Arnaudin, donc avant les grands travaux décidés par Napoléon III pour drainer et valoriser, tel qu'on l'entendait à l'époque, les landes de Gascogne, donc en plantant des pins et en drainant les grands marais de ces landes. Et on voit ici une image du Rhin tel qu'il existait dans la première partie du 19e siècle, avec la plaine, le lit mineur du Rhin qui s'étendait sur plusieurs kilomètres de large. Et donc on voit que toutes ces zones humides là ont disparu après que le Rhin ait été rectifié, comme on disait, pour améliorer le territoire. Plus près de nous, les zones humides, elles continuent à être dégradées, donc que ce soit pour des aspects agricoles, mais aussi beaucoup, et ça a été le cas surtout au XXe siècle, par différents aménagements, l'urbanisation, l'aménagement d'infrastructures, et en tout cas, elles sont encore souvent considérées comme des zones à la marge sur lesquelles on peut faire n'importe quoi. Et donc, parce que l'État a décidé de politiques de préservation de ces milieux, après avoir pris connaissance ou avoir pris conscience de leurs bienfaits que j'évoquais tout à l'heure, que des grandes politiques de protection ont été lancées, un plan national d'action en faveur des zones humides, et des schémas directeurs comme le SDAG, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui préconise l'inventaire et la protection des zones humides sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc la charte du parc indique que le parc s'engage à inventorier et à préserver les zones humides. Donc cet inventaire a été mené de 2010 à 2015 et a permis de dresser cette carte qui localise, en bleu bien sûr, les zones humides du territoire. Donc on voit que c'est assez hétérogène. Je vais vous présenter très vite les principaux types de zones humides en se focalisant d'abord en faisant un focus sur le Piémont. On voit que les zones humides, elles y sont relativement petites, elles sont assez dispersées. Et voilà, c'est assez hétérogène leur localisation. Donc on revient sur la photo de Casavé, où là on a des zones humides vraiment de bord de cours d'eau, de petits cours d'eau, avec des plantes qu'on dit hélophiles, des grandes plantes qui poussent quasiment les pieds dans l'eau. On voit ici des prairies humides. Donc, en fait, les zones humides, les zones humides des prairies, elles vont se retrouver dans les bas-fonds ici. Et puis, c'est le cas ici aussi. Donc, on ne le voit pas bien, mais il y a des espèces tout à fait caractéristiques de ces prairies, en particulier quand elles sont gérées par de la fauche, avec l'orchis à fleurs lâches ici, qui est cette grande orchidée qu'on observe au printemps sur ces milieux. Sur le Piémont, on va aussi trouver des prairies sur les marnes, donc avec un sous-sol qui est basophile, enfin beaucoup de base, et donc peu acide, et des espèces comme la molinie bleuâtre, ou ici la linaigrette à feuilles larges qui vont se développer. On va y retrouver par exemple les pipactis des marais. Et puis lorsque les prairies sont abandonnées, la végétation devient de plus en plus dense et haute, et on assiste au développement de mégaforbiers, caractérisés notamment par la présence de l'angélique des bois. Et puis quand la forêt se développe de façon plus importante, on va trouver notamment, comme ici au bord du Salat, des forêts de saules, notamment de saules blancs. Voilà, je passe. Ici, les mares sont considérées comme des petites zones humides. Et l'intérêt biologique de ces mares, c'est qu'on va trouver sur peu de distance, en fait, plusieurs types de végétation, que ce soit aquatique, des végétations de bordure, de ceinture, et puis voilà, des niveaux topographiques un peu plus élevés. Sur la montagne, voilà, à nouveau une prairie humide. On est ici dans la vallée du Garbet, donc on est séparé du lit du cours d'eau, mais on reste quand même dans le bas-fond de la vallée. On est ici sur une prairie paratourbeuse sur la commune d'Hercé. Donc paratourbeuse, en fait, parce qu'il y a de la présence de tourbe, c'est-à-dire de matière organique très mal décomposée dans le sous-sol, mais du fait de conditions froides et du fait, encore une fois, de la présence d'eau, mais de façon très importante sur toute l'année. Et donc avec le développement assez impressionnant des linaigrettes notamment. En montagne, on va retrouver des mégaforbiers, comme je parlais tout à l'heure, mais qui sont composés d'autres espèces. Et l'espèce caractéristique de ces mégaforbiers de montagne, c'est la dénostyle à feuilles d'alière, ici. Et puis en montagne aussi, on va trouver des forêts marécageuses, à la fois au bord de petits cours d'eau, mais aussi dans les dépressions qui vont retenir l'eau. On va trouver des zones de sources sur lesquelles vont se développer aussi une végétation particulière. On a ici la saxifrage aquatique. Et puis une zone humide qui est particulièrement caractéristique, remarquable en montagne, ce sont les tourbières. Avec donc tourbières qui viennent de tourbe, donc cette matière organique très acide, très, très peu décomposée, qui s'accumule sur une grande épaisseur et qui fait qu'on a des végétations qui sont adaptées à un sol très acide, à un engorgement très très important. Donc on va retrouver ces petites mousses ici qui sont des sphaignes et qui contribuent de façon importante à la biomasse de la tourbe. Et on va trouver ici des petites, ce qu'on appelle des gouilles, donc des zones d'eau libre, dans lesquelles on va trouver aussi une végétation spécifique. Donc voilà, d'autres types de zones humides, je vais y passer. Peut-être un focus sur celle-ci qui est une combe à neige, donc des zones humides qui se trouvent très haut en altitude, qui en fait ont très peu de temps, enfin elles sont composées de végétation, d'espèces qui ont très peu de temps pour réaliser leur cycle de reproduction sur l'année. Et donc c'est des espèces comme ici le saule herbacé qui sont typiques. C'est des espèces plutôt qu'on trouve normalement en Arctique, mais qu'on va retrouver chez nous au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Voilà, et puis en fait je vais m'arrêter là. Il y avait quelques images d'espèces, mais j'ai pas trop rattrapé le temps, mais je suis rentré dans les 20 minutes.